spécial sur RFI.
Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez.
Et oui, de retour dans la capitale malienne à l'occasion du Forum de Bamako avec pour thème cette année « Quelle Afrique à l'horizon 2040 ?» Vaste thématique qui mérite bien trois jours de colloque. En tout cas, ce matin, nous parlons des infrastructures. Le continent doit impérativement rattraper son retard, d'autant que la population va doubler dans les 20 prochaines années. Investir dans ce domaine permettra à la fois de créer des emplois, de doper la croissance, de réduire la pauvreté et de rendre le continent plus compétitif face à la concurrence internationale. Autrement dit, sans infrastructure, pas de développement. On en parle évidemment ensemble durant les 20 prochaines minutes avec mes invités. Madame la ministre des infrastructures et de l'équipement du Mali, Traoré Senadou Diop, Chou Liying, ambassadeur des Chine au Mali, et Birana Sidi Bé, ancien vice-président des opérations de la Banque islamique de développement, ancien cadre de la Banque africaine de développement. Beaucoup de réactions, beaucoup de témoignages. C'est vrai qu'on a consacré une grande partie de cette émission à parler des routes. Il y a d'autres sujets qui interpellent nos auditeurs, et notamment sur le rôle de l'Afrique, principal pourvoyeur de financement des infrastructures sur le continent. Sira Madi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Wan. Bonjour à Monsieur l'ambassadeur.
L'ambassadeur de Chine qui est à mes côtés, parce que vous avez une question à lui poser.
On entend beaucoup que la plupart des grands projets d'infrastructure en Afrique sont aujourd'hui réalisés par les Chinois. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi nos dirigeants confient ces projets aux Chinois?
Alors, monsieur l'ambassadeur, confirmez-vous cette information? Êtes-vous le principal pourvoyeur de financement des infrastructures sur le continent?
Merci, c'est Maradi. Pas tout à fait. Qui dit confier, dit confiance. Et la confiance des pays africains vis-à-vis de la Chine, je crois qu'il y a des raisons historiques, il y a des raisons d'actualité. Raison historique, ce sont les cinq principes de la coexistence pacifique, notamment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. Lors du sommet de Pékin sur la coopération Chine-Afrique il y a 2 ans, ce principe a été réitéré, notamment avec le principe de ne pas rechercher des profits politiques par des projets économiques. Ça a été très bien apprécié. Je reviens sur la raison d'actualité. C'est qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, et non seulement entre qualité et prix, mais aussi entre rapport qualité-prix et échéance.
Et c'est ça qui fait la différence.
Tout à fait.
Oui. C'est-à-dire que vous êtes plus rapide.
Plus rapide.
Et vos produits sont de meilleure qualité que ceux des Européens, par exemple.
J'ose pas le dire, mais en tout cas, le prix est très concurrentiel. Oui. Et puis, la qualité est très bonne. Nous, dans la construction des autoroutes et du chemin de fer, nous avons établi des normes internationales de très haute qualité. Et ça a été prouvé partout dans d'autres régions du monde entier. J'ose pas dire que la plupart des projets sont réalisés par la Chine, mais le pourcentage est assez élevé.
En tout cas, il y a un chiffre, 20%. Vous allez le confirmer, 20% oui. Des infrastructures sont dues à des investissements
généraux en Afrique.
En Afrique, oui. 50 milliards de dollars sont investis chaque année par la Chine dans les infrastructures et la moitié dans les transports. C'est un chiffre que vous confirmez?
À peu près.
Oui, à peu près, très ça. Bien. Birama Sidi Bé, comment vous expliquez effectivement que de plus en plus de dirigeants sur le continent se tournent vers la Chine pour construire des infrastructures?
Simple question de bon sens et simple question de marché. Je peux témoigner que l'arrivée de la Chine sur le marché des infrastructures en Afrique a complètement permis de les rendre compétitifs, sans compromettre la qualité.
Donc, quand l'ambassadeur dit « nous sommes moins chers que les Européens et nos produits sont de très bonne qualité », on entend dire souvent, excusez-moi, et on l'a entendu dans cette émission dans la bouche de beaucoup d'auditeurs, la Chine, certes, fabrique rapidement, mais pas toujours de bonne qualité.
Ce que j'entends confirmer, c'est ce que l'ambassadeur dit, et j'emporte le témoignage parce que au début, les infrastructures coûtaient très cher. L'arrivée des entreprises chinoises sur le marché africain a permis de ramener le coût des infrastructures à des dimensions plus acceptables. Et d'ailleurs, ce que l'ambassadeur ne dit pas, c'est que je connais pas les chiffres actuels, mais quand j'étais dans le domaine des multilatérales, la plupart des projets financés, la Chine a accès au marché des banques multilatérales, étaient rapportés par des entreprises chinoises, qui étaient vraiment différents du financement propre de la Chine. Ensuite, c'est ajouté le financement propre de la Chine, possible. Pour les Africains, les dirigeants africains, je serai à leur place. Évidemment, on va au plus offrant sans compromettre la qualité. Et pour l'instant, les Chinois sont bien placés.
Madame la ministre réagit, Traoré, Senabou Diop. Je vous vois faire des gestes, vous acquiescez ?
J'acquiesce. Nous lançons des appels d'offres. La Chine ne vient pas tout nous donner gratuit. Nous avons des appels d'offres qui sont élaborés en bonne et due forme, avec parfois des financements autres que les financements chinois.
Oui. Mais la Chine est aussi moins regardante sur certaines questions, et je pense évidemment aux droits de l'homme, par exemple.
Oui.
Est-ce que c'est un des critères qui entre en jeu à un moment donné ?
Les appels d'offres ont des lignes bien tracées. Nous avons un dossier type qui a été fait par le MOA, que nous avons tous confirmé. Nous avons le dossier Banque mondiale, nous avons le dossier BOAD. Nous nous conformons à ce qu'il y a dans ce dossier. Et là, nous travaillons techniquement pour voir qu'est-ce qu'il y a de bien pour faire notre route. Et là, les caractéristiques techniques sont sorties. Et celui qui répondra le mieux aux caractéristiques techniques et qui nous donnera l'offre financière la moins chère, eh bien, on prendra avec eux.
Et notamment, donc, la Chine. Encore une question sur la Chine, monsieur l'ambassadeur. Il n'y en a que pour vous ce matin. Taïrou, bonjour.
Bonjour, Juan. Bienvenue à Bamako.
Merci, puisque vous nous appelez de Bamako. On est ravis d'être dans votre ville. Quelle est votre question ?
On entend, on le voit beaucoup que la Chine est présente en Afrique, mais mon entourage et moi n'avons pas connaissance de projets chinois au Mali, ni particulièrement à Bamako.
Voilà une bonne question, Madame la Ministre. Des projets chinois au Mali, il y en a ?
Bonjour Taïrou, si vous montez sur le troisième pont de Bamako, vous montez sur un projet chinois. Il nous a été offert. Si vous allez à Ségou, vous montez sur un projet chinois, parce que c'est une route qui a été construite par une entreprise chinoise. Si vous allez aujourd'hui à Yanfolila-Kalana, vous avez un projet chinois. Le CICB a été construit par
le CICB, c'est le Centre international de conférences, qui est juste à côté de nous.
Juste à côté, a été construit par les Chinois. Donc nous avons beaucoup de projets, car la coopération avec la Chine a commencé depuis nos indépendances et la relation a toujours été fructueuse avec la Chine.
Et comment sont financés tous ces projets, le troisième pont de Bamako ?
C'est un don.
C'est un don, donc c'est un cadeau.
C'est un don qui nous a été fait par la Chine pour montrer encore et magnifier encore toutes les excellentes coopérations que nous avons avec la Chine.
Quel intérêt, monsieur l'ambassadeur, avez-vous à construire le troisième pont de Bamako, à l'offrir aux Maliens ?
Aider le Mali, c'est notre devoir politique. Parce que le Mali, c'est un pays ami traditionnel de la Chine. Quand elle a besoin des infrastructures, la Chine fait tout pour aider le Mali.
Mais il y a forcément une arrière-pensée, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas, je m'interroge.
Pas du tout.
Peut-être le fait d'offrir des ponts ici et là à d'autres pays, c'est un moyen pour, je pose une question, peut-être pour la Chine, de se positionner géostratégiquement parlant, d'avoir les voix de l'Afrique demain au vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'il y a tout de même une stratégie ?
La coopération, que ce soit dans le domaine politique ou économique, c'est mutuel. Ce sont des amis fraternels et sincères entre la Chine et les pays africains. Donc je ne vois pas comment il y a là une question de positionnement stratégique, etc. Je ne vois pas.
Vous ne voyez pas, Madame la Ministre, en quelques mots, et on repasse au standard.
Je veux juste répondre à la question, comment elles sont financées. Les entreprises chinoises, à part le pont, le troisième pont qui nous a été offert, les entreprises chinoises, elles postulent à des marchés publics, et puis elles ont les marchés. Et c'est des financements budget national, c'est des budgets par d'autres financements par les partenaires techniques et financiers. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est la Chine qui finance tout, hein. Le budget national finance beaucoup.
On n'a jamais dit que la Chine finançait 100% des projets, mais il y a certains projets, et pas les moindres, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui sont financés à hauteur de 90-95%, notamment en Afrique de l'Est. Mais je voudrais qu'on repasse au standard via notre studio parisien. Mouamadou, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de RFI à Bamako.
Vous êtes à Ouagadougou et vous souhaitiez nous parler de l'électricité.
Absolument. Tel qu'on dit que le développement des pays passe par le développement des routes, l'électricité a aussi une part importante dans l'émergence de nos États qui sont un peu en arrière sur ce plan-là. Au Burkina Faso, on a pris beaucoup de retard dans ce domaine-là. Ces dernières années, durant les mois de février, mars, avril, mai, on connaît beaucoup les délestages. Le Burkina a beaucoup investi dans ce domaine-là, à coût de centaines de milliards. il y a beaucoup à faire encore, si bien que le Burkina diversifie ses sources d'approvisionnement, les pays limitrophes, la Côte d'Ivoire, le Ghana, mais également le Burkina construit des champs solaires photovoltaïques pour soutenir la production nationale d'électricité.
Effectivement, et on se souvient d'ailleurs, c'est l'inauguration en grande pompe de la centrale solaire de Zaktouli, si ma mémoire est bonne, 130 000 panneaux solaires. C'est vrai que l'Afrique a un potentiel incroyable, potentiel solaire gigantesque, Birama Sidi Bé.
Tout à fait, vous avez raison, et l'auditeur a raison également. L'alternative solaire est très justifiée pour l'Afrique, parce que dans le coût total de l'électricité, il y a le coût de la production, et le transport, c'est ce qui coûte le plus cher.
Et la production d'électricité, je vous donne un chiffre, grâce à l'énergie produite avec la centrale solaire au Burkina Faso, le kilowattheure coûte 47 francs CFA, 7 centimes d'euros, alors que l'électricité produite par les centrales thermiques coûte 145 francs CFA. Donc ça permet à plus d'habitants d'être éclairé, d'avoir de la lumière, mais ça permet également aux entreprises du Burkina Faso d'être finalement plus compétitives.
Tout à fait d'accord. Et ensuite, elle récolte ce que le ciel a donné. Le soleil est partout sur le Sahel. Et si en plus, la tendance technologique est que ça coûte moins cher, évidemment, c'est du tout gagnant en ce moment. Et c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. C'est ce qu'il faut dans les sites isolés. Il faut absolument développer le solaire parce qu'il est là et parce qu'il y a moins de coûts de transport d'électricité dans les sites isolés.
Madame la ministre, il y a des projets de centrales solaires au Mali ?
Oui, beaucoup de... C'était un concept qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il y a beaucoup de paysans qui ont déjà adopté ce système. Ils ont leur petite machine solaire, leur petit panneau solaire, et ils s'électrifient avec ça déjà. C'est un concept que nous sommes en train de développer avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, et qui fait vraiment...
Monsieur l'ambassadeur, vous levez la main.
Ici au Mali, nous sommes en train de discuter avec les autorités maliennes sur beaucoup de projets solaires dans les banlieues de Bamako. À mon avis personnel, comme vous avez dépasser la période de téléphone fixe pour justement arriver au téléphone mobile. Vous pouvez très bien aussi dépasser la période des centrales thermiques et hydrauliques pour arriver très vite dans la période de l'énergie solaire.
Et là aussi, c'est une opportunité pour la Chine. Hein. Vous avez des tarifs qui sont extrêmement compétitifs.
Pour tout le monde. L'Europe est aussi très forte en solaire.
Oui, mais enfin, vous savez bien, vous êtes beaucoup moins cher que les Européens. D'ailleurs, ça a posé, mais on ne va pas ouvrir le débat, des problèmes il y a quelques années au sein de l'Union européenne. Bref, on tourne la page, on continue à parler des infrastructures sur le continent africain où nous sommes évidemment ces jours-ci. On est à Bamako à l'occasion du grand forum de Bamako. On va parler, tiens, des chemins de fer. Ibrahim, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux Bamakois et Bamakoises. Oui, le transport ferroviaire est relativement peu développé, surtout en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui justifie cet état de fait aujourd'hui, alors que sous la colonisation, c'était le transport le plus emblématique ?
Birama Sidi Bé, est-ce que vous avez une réponse justement ? Comment se fait-il qu'il y a moins de kilomètres de chemin de fer ?
Effectivement, du temps de la colonisation, c'était le moyen de transport le plus indiqué pour faire sortir les marchandises vers les ports. C'est un moyen d'infrastructure qui coûte relativement cher à le faire. Et je le vois partir, moi, dans les routes de la Zleka, ou les infrastructures de la Zleka, qui doivent être financées par d'autres moyens que l'endettement public direct. Quoi.
Oui, construire un kilomètre de rail coûte en moyenne 21 millions de dollars. La route est 10 fois moins cher. Voilà ce que disait la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Madame la ministre, y a-t-il un projet de réhabiliter les chemins de fer au Mali ? Évidemment, on pense aux pays voisins.
Pour autant que ça coûte cher, les pays africains, y compris le Mali, n'ont pas abandonné l'idée de faire un réseau ferroviaire. Déjà, je vais parler d'abord du prochain, c'est-à-dire le chemin de fer du G5 Sahel, qui est en gestation.
Celui qui va passer par le Burkina Faso, le Niger.
C'est ça, de Nouakchott à N'Djamena, dont les termes de référence pour l'étude sont déjà prêts et qui sont en train d'être travaillés. Il y a aussi la CEDEAO, qui a son projet de rallier tout le monde, enfin, le maximum de pays. Et il y a le Bamako ferroviaire, bien sûr, c'est-à-dire le Bamako-Dakar.
Mais tout ça, ce sont des projets.
Non, Bamako-Dakar, il existait. Nous sommes en train de le réhabiliter.
Il faut le réhabiliter.
Oui, effectivement.
Et vous avez les fonds ?
Nous sommes en train de les chercher et nous avons, en tout cas, le budget national a mis déjà ce qu'elle pouvait dans la petite nacelle pour qu'on puisse commencer déjà à au moins la redynamiser.
Oui. Monsieur l'ambassadeur, la Chine a financé des gros travaux en matière de chemin de fer sur le continent africain. Je pense à cette ligne qui relie Nairobi à Mombasa. 3 milliards d'euros, 90% financés par la Chine. Vous y voyez un intérêt à construire des chemins de fer?
Oui, dû à l'intensité des échanges humains et économiques entre les pays de l'Afrique de l'Est et l'Asie, nous avons tout à fait intérêt à construire des chemins de fer. Parce que ça demande d'énormes investissements et de longue durée. Donc il faudrait quand même le minimum de rentabilité économique avec cette intensité des échanges économiques avec l'Asie, notamment avec la Chine.
Vous diriez que l'Afrique de l'Est est... Alors j'ai employé des grands mots, hein. Excusez-moi monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas être diplomate. Mais l'Afrique de l'Est serait plus rentable que l'Afrique de l'Ouest?
Oui, avec la distance moins courte par rapport à l'Asie, tout à fait. Et puis, des échanges économiques, c'est beaucoup plus développé par rapport à l'Afrique de l'Est.
Et ces chemins de fer, excusez-moi, je reviens toujours aux intérêts chinois, ces voies de chemin de fer vous permettent d'exporter plus facilement vers l'Asie, puisque vous, par exemple, de Nairobi à Mombasa, il y a un port, et le port, il y a des bateaux qui attendent les marchandises africaines pour aller vers l'Asie, et le contraire.
Et le contraire, dans l'autre sens aussi. Oui. C'est le commerce.
C'est le commerce, évidemment. Il nous reste, allez, très très peu de temps, je voudrais qu'on accueille Sey, il est sénégalais, il écoute RFI à Houston, aux États-Unis. Bonjour Sey.
Oui, bonjour Juan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'ITER, qui est le train express régional sénégalais.
La ligne a été inaugurée en grande pompe il y a un an. Il y a simplement un premier tronçon qui a été construit, hein, 36 kilomètres. Mais, excusez-moi, la ligne ne fonctionne pas encore. Est-ce que le Sénégal avait besoin d'un tel chantier? Est-ce que c'était une urgence pour le Sénégal?
Oui, c'était une urgence. C'était une urgence parce que la population de Dakar, la population des autres régions ont toujours des difficultés de mobilité urbaine à cause des embouteillages.
Oui.
Le président de la République, son excellence Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé d'abord un chemin de fer vétuste, un secteur ferroviaire vétuste et délaissé, sans aucune sécurité.
Alors, je voudrais qu'on donne la parole à l'expert en développement qui est à nos côtés ce matin, Birama Sidibé, sans vous mettre à dos, évidemment, le président sénégalais. Mais que pensez-vous de ce genre d'infrastructure? Est-ce que le Sénégal a besoin d'un train express régional?
Mais tout est question de choix économique. Quand on choisit un domaine d'infrastructure à développer, c'est basé sur des choix économiques, des choix de nombre de personnes atteintes. Et la mobilité urbaine est l'un de ces choix.
Mais parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages à Dakar. Pour ceux qui ne connaissent pas la capitale sénégalaise, bon courage à tous ceux qui nous écoutent en ce moment dans les embouteillages, le long de la corniche à Dakar, et on les salue évidemment. Madame la ministre, en quelques mots, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que le Mali envisage également un train régional express, ou vous dites on n'en est pas encore là?
Si, vous savez, il faut avoir de la vision. Il faut quand même bouger. Oui. On ne peut pas rester encore à dire qu'on va rester dans les petits bus. Il faut qu'on arrive, avec la population qui augmente à Bamako, d'une ville qui était à 2 000 habitants, on est à 3 millions d'habitants. Il faut bien qu'on trouve les moyens de les véhiculer.
Et je peux témoigner, hein, les embouteillages, excusez-moi, sont de plus en plus importants.
Justement, donc la vision de trouver un autre moyen de transport qui ferait qu'on transporterait beaucoup plus de personnes de façon plus sécurisée, eh bien, c'est un chemin à faire. Nous sommes déjà dessus, nous aussi, en train de réfléchir à comment trouver ce système pour que la mobilité soit assurée et dans la sécurité. Et
monsieur l'ambassadeur,
oui,
le mot de la fin.
Je suis d'accord avec vous. Ce genre de tramway et de transport léger dans les grandes métropoles africaines, c'est très important aussi, vu de la protection de l'environnement.
C'est vrai.
La diminution de la pollution de l'air.
Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites. On avait Brice qui dit qu'il faut impérativement que les institutions qui financent les grands projets d'infrastructure aient un regard sur le respect de l'environnement. Je pense également à Taneni, à Djamena, qui nous a interpellé à cette question, sur cette question de respect de l'environnement. Messieurs, madame, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de RFI. C'était passionnant ce dialogue avec les auditeurs de RFI. Bonne journée à tous les trois. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve évidemment demain, toujours à Bamako, pour une émission consacrée au casque bleu en Afrique. Tant de moyens financiers et militaires, mais pour quels résultats ? Vous aurez le privilège notamment de discuter, de dialoguer avec Mahamat Saleh Anadif, le chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Merci à tous de votre fidélité. Passez une bonne journée. Je remercie évidemment tous ceux qui m'ont aidé à présenter cette émission. À Bamako, Richard Effono, Jessica Taïeb, à Paris, Benoît Raymond, Jean-Philippe Thurie, Anna Kérotret, je pense également à Alexandra Rivière et Fouque Foller pour les réseaux sociaux. À suivre évidemment, comme tous les matins à cette heure-ci, juste après le journal, Priorité Santé avec Caroline Paré.